Digital sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous. Au micro, Elisabeth Couget. Et comme d'habitude, je suis accompagnée par
Christine Afota.
Pour partir en voyage virtuel avec vous en direction d'une capitale qui n'est pas un but de voyage habituel. Bonjour Christine.
Bonjour Elisabeth.
Alors partons donc dans cette capitale que je vais essayer de vous faire apprécier, mais avant toute chose, de vous la faire connaître. Eh bien, je vous invite à débarquer à Tirana.
Dans la capitale albanaise.
Alors, voici un peu de géographie d'abord et voyons déjà où se trouve exactement l'Albanie. C'est un petit pays à peine plus grand que la Bretagne.
Il me semble que le but de notre voyage aujourd'hui fait partie du sud de la péninsule balkanique,
non ? Tout à fait, et même précisément du sud-ouest. L'Albanie couvre environ 29 000 km², formant ainsi une surface très étroite, allongée, sur 340 km de longueur, dont 70% montagneuse, accidenté, assez difficilement accessible. Le pays est séparé de l'Italie par deux mers, l'Adriatique et l'Ionienne.
Et quels sont les pays frontaliers de l'Albanie ?
Eh bien, il y a le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine et la Grèce, donc l'Union européenne. Alors, ces frontières ont été fixées lors de la conférence de Londres en 1913, un an avant la Première Guerre mondiale.
Et voilà donc un pays qui, depuis plus de 100 ans, a la même configuration. Et ce n'est pas du tout habituel dans cette partie de l'Europe, en particulier où les frontières ont beaucoup bougé. Et que peux-tu dire du passé lointain de l'Albanie ?
Eh bien, ce passé a été découvert et précisé dans le sud du pays, où la présence et les traces humaines d'il y a plus de 10 000 ans avant notre ère ont été certifiées par des scientifiques. Il s'agissait d'une population arrivant d'Anatolie en premier, qui a été suivie par les Illyriens et de nombreuses autres populations par la suite.
Les Albanais ne descendent pas forcément des Illyriens, alors ?
Ah non, pas directement, car il y a eu aussi des Grecs, suivis des Romains, qui ont incorporé l'ensemble du territoire actuel dans la vaste province de Macédoine, où des cités gréco-romaines vont se développer assez rapidement d'ailleurs, tout comme le christianisme. En 395 après Jésus-Christ, à la chute donc de l'Empire romain, le territoire entier sera placé sous l'autorité de Byzance.
Et après viendront les grandes vagues migratoires du Moyen-Âge.
Et oui, tout à fait, à commencer par les Huns, suivis des Lombards, des Gépides, des Avars, et ensuite les Slaves. Et tout ça a ébranlé le pouvoir byzantin que par la suite, l'arrivée des Bulgares et celle des Normands n'a fait que affaiblir encore plus. Il fallait attendre la venue des Angevins à la fin du XIIIe siècle qui établiront le royaume de l'Albanie et que les Serbes ne cesseront de convoiter. Heureusement, sans grand résultat.
C'est là que les Ottomans vont arriver.
Ah oui, tout à fait. C'est la période à partir du XVe siècle. Les Turcs et surtout leur religion, l'islam, vont menacer une grande partie du continent européen. Et l'Albanie n'y échappera pas non plus. L'islamisation finale amènera son développement quand même. Hein. Le pays sera découpé en sandjak, une sorte de préfecture, dirigée par les pachas turcs. Et seules les zones les plus montagneuses qui arriveront à défendre farouchement leur tradition chrétienne surtout, mais dépendront quand même de la sublime porte.
Il n'y avait pas de conscience nationale ?
Et si, mais il fallait la réveiller. Et attendre pour cela la fin du XIXe siècle et le déclin de l'Empire ottoman. Hélas, le mal était fait durant 6 siècles d'occupation en Albanie. Et malgré la mère Teresa, si grande chrétienne, albanaise de naissance, connue dans le monde entier, l'Albanie n'est plus vraiment un pays chrétien, car l'islam l'a définitivement conquise. On estime toutefois que 70% de la population aujourd'hui est musulmane, mais 20% en est orthodoxe et 10% est resté catholique.
Le XXe siècle en Albanie ressemble à une bonne partie de l'Europe au même moment.
Oui, c'est à peu près ça. On peut dire que c'est un pays comme un autre. En 1912, après sa libération des Turcs, un nouvel État est créé, mais les Serbes et les Monténégrins n'étaient jamais bien loin, rêvant toujours d'un petit bout d'Albanie à récupérer. Alors, l'État moderne, d'ailleurs, ne date que de 1920, lorsque Ahmet Zog en prendra le pouvoir. Il deviendra le roi Zog Ier et le restera jusqu'en 1939. Il va créer une structure moderne dans ce pays mené par des clans dont les chefs s'octroyaient le plein pouvoir. Donc, ce n'était pas simple. En 1939, finalement, c'est l'Italie fasciste qui va mettre fin à tout ça et prendra le pouvoir, chassera Zog et sa famille et mènera l'Albanie directement dans la Seconde Guerre mondiale. Ce sont finalement les partisans fascistes qui libéreront le pays en 1945. Mais tout ça pour laisser la place aux communistes pour une durée de 50 ans bien douloureuse. Depuis 1992, le pays est considéré comme démocratique avec une idée et la volonté de rejoindre l'Union européenne.
Comme beaucoup d'autres. Et ils sont combien, les Albanais ?
Eh bien, environ 3 millions et leur langue est une langue indo-européenne.
Comme le français.
Et oui, et comme d'autres langues latines ou des langues slaves, germaniques, mais dans la langue albanaise, on trouve des traces du grec, de l'illyrien, comme d'ailleurs chez les Roumains.
Donc on ne devrait pas être trop perdu en écoutant parler les Albanais et en visitant leur capitale.
Alors je ne promets pas que vous allez comprendre, mais il y aura peut-être quelques lumières qui arriveront en les écoutant. Mais on verra ça peut-être et on visitera Tirana.
Après une pause musicale.
Exactement, musique albanaise. Voici dans les studios de Radio Grand Ciel, en route vers Tirana, dans notre émission Capitale.
Donc, tout à l'heure, nous avons découvert l'histoire assez mouvementée.
Oui, alors on va parler de la ville qui ne peut laisser indifférente. On l'aime ou on ne l'aime pas. Pour certains, c'est une ville surpeuplée, polluée, bruyante, alors que pour d'autres, Tirana est fébrile, bouillonnante, où la vie palpite et où les traces des souvenirs d'une dictature renversée il n'y a pas si longtemps que ça est toujours palpable.
Et toi, Elisabeth, tu aimes ou tu n'aimes pas Tirana? Qu'en penses-tu?
Eh bien, je la connaissais un peu à l'époque d'Enver Hoxha, le dictateur communiste, le plus dur de l'Europe, sachez-le. Et au XXe siècle, c'était malheureusement, il n'était pas le seul, mais bon, le plus dur, c'était lui. Vous ne pouvez imaginer la vie épouvantable que vivaient les Albanais, tandis qu'à l'ouest, c'était les 30 glorieux flamboyants.
Et ensuite?
Eh bien, je suis retournée en 2014, bien après cette époque si sombre, et j'ai découvert une ville en totale transformation, en plein développement, peuplée d'une jeunesse moderne dans les rues du centre, comme dans n'importe quelle ville européenne, n'importe quelle autre capitale.
Et donc, quelle est l'ambiance alors dans la capitale albanaise?
Alors, comme je disais, la jeunesse est vivante, gaie, joyeuse, surtout à la belle saison, où on a un vrai plaisir d'observer les scènes urbaines à suivre le rythme de vie de la population locale, en se promenant sur des avenues, dans des parcs, ou en s'installant sur des terrasses des cafés, où l'ambiance méditerranéenne est totale, surtout à partir de 19h, alors que la chaleur commence à s'estomper et la pré-soirée très conviviale peut commencer, ce que la jeunesse locale appelle le tiro.
Eh bien, tout cela me paraît très agréable. Et sûrement, comme dans les capitales qui se sont développées près des cours d'eau, bien sûr, la ville a été construite des deux côtés de la rivière Lana.
Exactement. Donc, ce n'est pas aussi grand que les autres fleuves, ce qui sépare certaines capitales, mais bon, elle y est bien, Lana. La rive droite est la partie résidentielle du centre-ville, dont le cœur est la plage Kanderberg. La Tirana nous présente l'image d'une ville moderne, structurée. Mais plus on s'éloigne de ses quartiers d'affaires et administratifs, plus l'idée d'une ville moderne s'estompe. Et c'est une autre cité qui apparaît, surpeuplée, à l'urbanisation anarchique. De larges boulevards sont remplacés par des rues étroites, boueuses, surtout par temps de pluie. Les quartiers résidentiels cohabitent avec des zones grises à l'habitat assez vétuste.
Et quelle est la partie la plus animée de la ville? Ça ne doit pas être les zones grises, je pense.
Non, non, non. Alors, il y a une rue, là, qui est vraiment la plus vivante de la capitale, qui porte le nom d'un jeune héros mort à 26 ans en 1944. C'était Mislim Chiré. Et la rue parallèle à la rivière Lana, où cafés, restaurants se succèdent, voilà, sur des terrasses, et tout ça sur une large et énorme trottoir qui attire beaucoup, beaucoup de promeneurs, des familles, etc.
La longue présence ottomane dont tu parlais a certainement laissé des traces dans la ville.
Et oui, absolument. C'est la place Avenue Rustemi, dans le quartier dit Pazarid, ou Pazar, Bazar, vous voyez, que l'ambiance ottomane devient palpable. Des ruelles entrelacées, petits commerçants avec des étals multicolores, qui vendent de très bons fromages, de beaux fruits, et où l'âme de la vieille ville palpite. Surtout à l'abri de la mosquée Elham Bey.
Et qui était cet Avni Rustemi?
Alors, cet homme-là était aussi un héros de la nation qui a été assassiné à Paris. Et voilà, mais enfin, c'est celui qui a tué le dictateur albanais en 1920 à Paris, donc. Et il s'appelait... Ce dictateur s'appelait Essam Pacha Toptani. Retenons ce nom puisqu'on va le retrouver beaucoup. La famille Toptani était une famille très aisée, puissante, à la tête de la ville. Plusieurs rues portent leur nom encore, entre la place Kanderberg et l'hôtel de ville, la galerie nationale, proche de la mosquée Elham Bey. Alors, cette famille Toptani a laissé à la postérité deux très belles maisons ottomanes qui sont de rares vestiges du passé ottoman de la ville.
Tirana est une ville du sud et je suppose qu'elle a quelques jolis parcs.
Oui, effectivement, celui que l'on considère comme le mini poumon vert du centre-ville est le parc Rignac qui était créé en 1950. Ce parc a façonné carrément le centre-ville pour former un rectangle de 29 hectares que quatre grands axes cernent, dont la rue Mislim Chérier, dont on a parlé tout à l'heure, ce jeune qui a été tué en 1944. Le parc abrite le mémorial de l'indépendance, et non loin de là se trouve la cathédrale orthodoxe, la galerie nationale, avant de rejoindre la célèbre place Skanderberg.
Skanderberg, Elisabeth, tu as déjà cité ce nom, et qui était donc cet homme, un autre héros national?
Je dirais c'est le héros national. Sa statue équestre trône sur le point central de la place qui porte son nom. C'est une très grande place qui couvre une surface de 40 000 mètres carrés, qui a été conçue par des Autrichiens durant la Première Guerre mondiale. C'est une place semi-piétonne bordée par une série de beaux bâtiments néo-renaissance utilisés comme des bâtiments officiels, et la place accueille de nombreuses festivités comme par exemple le marché de Noël. Voilà. Et voilà ce que je peux dire du Grand Skanderberg. Son nom était Georges Castriot. C'était un prince albanais qui est né en 1904, que son père a dû donner en otage, encore enfant, à peine 4-5 ans, au sultan Murad.
Alors, cela me rappelle François Ier, qui a dû donner ses fils en otage à Charles Quint.
Oui, tout à fait, exactement. Mais revenons à Skanderberg. Le jeune Georges, otage donc à Istanbul, a été élevé dans la religion de l'islam, bien sûr. Il deviendra un brillant capitaine que les Ottomans appelleront Iskander Bey. Donc le prince Alexandre, je pense qu'ils l'ont confondu un petit peu avec Alexandre le Grand. À la mort du père de Georges, les Turcs vont annexer l'Albanie et du coup, les Turcs vont envoyer Skanderberg accomplir la conquête définitive de la Serbie. Il va retrouver l'Albanie natale, poussé par ses compatriotes, il va se révolter, abjurer l'islam et deviendra prince de l'Albanie et de l'Épire. Il va s'allier aux Hongrois, qui étaient toujours en lutte contre les Turcs, et soutenu par le pape et Venise, ils lutteront ensemble avec succès contre les Turcs. Skanderbeg continuera cette lutte jusqu'à sa mort, 1468, mais une fois mort, les Turcs vont de nouveau s'emparer de l'Albanie.
Dijor giro shqiponja, këngën që të sjellë gjitonja.
Shtë ka lezet lëmi këngës për birin e shtrejtë të zemrës.
Oho!
Dalge erebeshi salhetjes aqushta
historia si hiç të deshi komandant dhe komisar.
Dans cette ultime partie de notre émission Capitale sur Radio Grand-Ciel, nous terminons notre visite de Tirana, mais remercions d'abord Simon Martin, le maître des claviers de nos studios. En compagnie de Christina Fautin, nous vous faisons découvrir la capitale de l'Albanie depuis 20 minutes environ déjà.
Tirana, ce pays très différent des nombreux autres que nous vous avons présentés depuis plusieurs années dans l'émission Capitale sur Radio Grand Ciel, en notre compagnie.
La capitale est différente forcément, le pays est très différent aussi, bien entendu. Alors jusqu'ici, Tirana nous a démontré ses différentes facettes, sa vie paisible entre musulmans et chrétiens. Nous avons beaucoup parlé d'un de ses héros qui luttait contre l'occupant, le célèbre Skanderberg, de la place ornée par sa statue équestre dans le cœur actif de la capitale, où les plus anciennes traces humaines ont été découvertes fortuitement d'ailleurs en 1972. Ça s'est passé au cours des travaux de restauration. Ce sont des mosaïques qu'ils ont trouvées qui proviennent d'une très belle villa romaine du IIIe siècle, à l'emplacement de laquelle c'est une église qui a été construite dédiée à Saint Jean trois siècles plus tard, donc vers 600. Aujourd'hui, ces mosaïques sont précieusement gardées et protégées dans un petit parc où tout le monde peut les voir.
On a parlé tout à l'heure de la mosquée MB, B-E-Y, B.
Oui, Bey, quoi.
Et c'est bien sûr un authentique témoignage du passé ottoman de Tirana.
Exactement. Alors, il faut savoir que c'est une construction très élégante d'il y a environ 250 ans. Elle est sans doute l'une des plus belles du pays. Son statut de monument culturel l'a sauvée de la destruction durant le régime communiste, comme tant d'autres choses qui ont disparu de la sorte à l'époque.
Mais il reste d'autres monuments de l'époque turque à découvrir ?
Oui, certainement, comme par exemple la tour de l'horloge, que l'on trouve généralement dans toutes les villes que les Turcs ont occupées. Alors, celle de Tirana, malgré les 6 siècles de présence turque, est relativement tardive et n'a que 200 ans. Du haut de laquelle il y a une très très jolie vue sur la ville. Elle est tout près du Musée national de l'histoire et inaugurée ce musée en 1981. Très intéressant. Et sa visite donne une excellente introduction à l'histoire complexe du pays. Vous aurez presque l'intérêt de commencer par ça. Si vous voulez faire comme les habitants de Tirana, empruntez un minuscule ouvrage d'art en pierre qui date du XVIIIe siècle.
Et encore un vestige de l'occupation turque.
Oui, absolument. C'est un petit pont de 8 mètres de longueur, large de 2,50 mètres, qui enjambe la Lana. Un grand pont moderne a été construit à côté, mais les Albanais préfèrent l'ancien. Il y a aussi à visiter un petit turbé, c'est une sépulture turque de Kapilan Pacha, qui il y a 200 ans était le gouverneur de Tirana et qui était victime de sa propre fille qu'il a empoisonnée, qui voulait protéger son fiancé que le père menaçait, etc. Enfin, c'est une histoire d'amour, quoi. Le turbé du Pacha est vide d'ailleurs, car ses dépouilles donc, de Kapilan ont été transférés tout simplement à Constantinople. Il y a belle urette. Hein.
Je suppose que le communisme a laissé des traces.
Oh oui, pour en avoir un aperçu, visitez Blokou, un ancien carré des dirigeants communistes qui, jusqu'en 1991, était tout simplement interdit à la population, qui était surveillée par les gardes républicaines constamment. Et maintenant, c'est devenu un espace public très fréquenté, très à la mode. Alors, empruntez aussi le boulevard des Martyrs de la Nation, qui relie la place Skanderberg et la place de Néné Teresa.
C'est-à-dire la mère Teresa d'origine albanaise.
Oui, tout à fait, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors, le boulevard des Martyrs a été débaptisé plusieurs fois. C'était d'abord boulevard Mussolini, avant de porter le nom de Staline, jusqu'en 1991, quand même. Hein. On l'appelle aussi, par la suite, le Champs-Élysées de Tirana, tracé entre ces grandes places dans les années 30 pour accueillir les défilés militaires. Alors aujourd'hui, c'est la promenade favorite des Albanais. Le cimetière des martyrs, qui est dans la suite de la place Nene Teresa, et c'est le plus grand cimetière de l'Albanie, où quelques 28 000 combattants de la Seconde Guerre mondiale ont trouvé le repos éternel. Il y a une statue en béton de 12 mètres de hauteur dédiée à la nation, nommée la Mère Albanie, qui domine l'entrée de ce cimetière.
La Nénée Albanie, on pourrait dire.
Oui.
Et le dictateur communiste, il s'y trouve aussi ?
Eh oui, Enver Hoxha s'y repose discrètement sous une pierre tombale en marbre rouge, s'il vous plaît. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que cette tombe est constamment fleurie. Donc il y en a quand même qui le regrettent. Le grand parc derrière la place de Nene Teresa est un véritable poumon vert de la ville qui couvre environ 230 hectares. C'est un parc qui a été créé en 1955 autour d'un lac artificiel et c'est un endroit très plaisant pour les habitants.
Sûrement. Est-ce qu'il y a encore autre chose d'intéressant à voir ?
Eh bien, on arrive à la fin de notre émission bientôt, donc peut-être encore on peut parler du Musée national d'archéologie. Et surtout, n'oublions pas la pyramide, qui est en réalité le centre international de la culture. Voilà, la pyramide était inaugurée en 1988. À l'origine, elle devait être dédiée au dictateur. Mais avec l'écroulement du régime, il n'en était plus question. Aujourd'hui, elle est devenue un des symboles de la capitale albanaise. Et voilà. Et cette en lui jetant un dernier coup d'œil, que nous allons terminer notre émission aujourd'hui. Et je vous remercie de nous avoir suivis
sur Radio Grand Ciel, où dans cette demi-heure, Elisabeth, tu nous as fait découvrir une ville vraiment méconnue, Tirana, la capitale de l'Albanie.
Et sachez-le bien, dans notre émission capitale, à bientôt pour un autre voyage dans une autre capitale du monde.
À bientôt.
En étant menée par Christine.
La prochaine fois,
voilà.
Yeah.